France Inter. Alexandra Ben Saïd, Jérôme Cadet, le 7-9.
Un grand entretien exceptionnel ce matin, puisqu'avec Alexandra, nous recevons trois invités. Je vous les présente brièvement. Kaïna Bahloul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devenue en 2019 la première femme imam de France. Vous avez cofondé avec Fakhar Korshan la mosquée Fatima à Paris, mosquée libérale et mixte. Le port du voile n'est pas obligatoire. Les femmes et les hommes y prient ensemble. Florian Chinsky, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ordonné rabbin en 2005. Vous avez accompagné des communautés à Jérusalem et Bruxelles avant de venir à Paris, aujourd'hui dans le 20e arrondissement. Vous appartenez au mouvement juif libéral de France qui est devenu judaïsme en mouvement. Enfin, Emmanuel Sebolt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devenu en 1994 la plus jeune pasteur de France. Vous aviez 24 ans et vous êtes depuis 2017 présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Vous êtes la première femme à occuper cette fonction et vous publiez donc ensemble Des femmes et des dieux. Ça sort demain, c'est aux éditions Les Arènes. Auditeurs de France Inter, vous posez vos questions au 01 45 20 24 7000 via les réseaux sociaux sur l'appli France Inter. Pourquoi ce livre ? L'objectif, est-ce que c'est d'offrir une lecture féministe de vos religions ? J'ai été frappé par une réflexion de Kaïna dans le livre, je vous cite, « J'ai réalisé que si au cours des siècles on avait confié l'interprétation des textes à davantage de femmes, on aurait abouti à une conception certainement plus égalitaire entre les hommes et les femmes. » Qui veut répondre, Kaïna ?
Oui, alors je ne sais pas si l'objectif est vraiment de faire une lecture féministe des textes religieux, des textes sacrés, mais je dirais que c'est plutôt une volonté de faire une lecture humaniste, inclusif des textes, parce que lorsque justement on lit et on interprète ces textes avec notre sensibilité en tant que femme, eh bien notre réflexe premier est de nous inclure nous-mêmes. Or, ce qui a été fait pendant des siècles, c'est que ces textes-là ont été lus par des hommes et leur réflexe premier a été de nous exclure en tant que femme.
Oui.
Florian Chinsky.
Voilà, et puis un de mes objectifs aussi, c'était de sortir un peu de ma zone de confort, enfin qui est pas très grande, hein, mais de rencontrer, d'aller à la rencontre aussi, en approfondissant vraiment les choses. On a passé une semaine ensemble à vraiment creuser les différents points de vue et d'essayer aussi de voir où sont nos points de rencontre, où sont nos points de différence, et de tester, et c'est vraiment ce qui s'est passé, pour moi, cette capacité de bien organiser les choses pour que on se rassemble sur tout ce qui est possible, on voit tous les points de convergence et qu'on ait cette respiration ensemble, aussi une petite pause et de la solidarité autour de tout ce qu'on vit au quotidien, qui est pas facile comme pour beaucoup d'autres personnes.
Et puis aussi, je dirais que écrire ensemble ce livre et discuter ensemble, c'était une manière pour nous de découvrir ce qu'on savait théoriquement, que les richesses et les différences des autres ne sont pas menaçantes pour moi, en fait. Nous sommes très différentes les unes des autres, nos traditions sont différentes, mais il n'y a aucun danger à être en dialogue les unes avec les autres et les uns avec les autres.
Ça, c'est un enseignement. Il y a aussi ce qu'on découvre dans le livre et qui sont vos trois parcours. Vous n'avez pas, vos religions ne donnent pas, ou les textes interprétés par les hommes ne donnent pas la même place aux femmes. Et du coup, ça se voit dans vos parcours. C'est-à-dire, Emmanuel Sebolt, pour vous, ça a été, vous êtes pasteur, donc, ça a été facile. Peut-être que devenir rabbin, Florian Chinsky, ça a été moins facile. Et encore moins facile, je vois Kaïna Bahloul qui hausse les sourcils. Bah alors allez-y, dites-nous. En effet, cette religion, ces textes sacrés lus par des hommes n'ont pas permis, n'ont pas que des imams émergent.
Oui.
Le parcours a été dur.
Oui, le parcours est dur aujourd'hui. Et ce qui est très paradoxal en réalité avec la tradition, avec les premiers siècles de l'islam, les siècles fondateurs de l'islam. Clairement, aujourd'hui, on vit une régression par rapport à la place qui est accordée aux femmes par les hommes, par les clercs religieux, ce clérica très masculin. Lorsqu'on revient à l'histoire de la tradition musulmane, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu des femmes, qu'il y a eu une femme notamment qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les recueils classiques, les canons de la tradition prophétique musulmane. Il y a eu une femme imam. Sauf que ces textes-là ont été complètement mis à l'écart. Lorsque j'en parle, les gens me disent « mais on connaît pas l'histoire de cette femme ». C'était une femme qui s'appelait Umm Waraqa, j'en parle dans mon livre. Elle a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Or, on méconnaît complètement ces textes-là aujourd'hui.
Pourquoi ? Que s'est-il passé ?
Eh bien, parce que les hommes se sont arrogés le pouvoir exclusif de pouvoir dire quelle est que doit être la foi religieuse, quelles doivent être les règles qui régissent l'ordre religieux, en excluant justement cette possibilité pour les femmes.
Florian Chinsky, vous êtes même vous aussi, vous avez dû puiser à l'extérieur finalement de la ressource pour devenir rabbin.
Alors,
à l'étranger, plus loin.
Alors,
que la
exactement. Donc, moi, mon choix, ça a été d'aller étudier à Jérusalem, parce que je savais qu'il me fallait une assise de légitimité en hébreu, un accès direct aux sources, et un accès aussi au pluralisme intérieur au judaïsme, qu'on trouve en fait dans toutes nos traditions et puis dans tous les cercles qu'on fréquente. Quand il y a du savoir, quand il y a vraiment de l'instruction profonde, alors il y a de la reconnaissance, de la pluralité, de la liberté, de la créativité. Plus on sait des choses, plus on sait ce qui est possible et plus on ouvre la place aux autres. Et donc j'avais vraiment besoin de me nourrir de ça, mais effectivement... Quand je me suis lancée, je me suis appuyée beaucoup sur une phrase d'un traité qui s'appelle Pirkei Avot, qui dit que ce n'est pas à toi de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de t'en affranchir. Ce que je veux dire par là, c'est que je considérais que je devais faire ma part et j'étais pas du tout sûre que de l'autre côté, ça rencontrerait des communautés et la possibilité de m'exprimer et d'exister en tant que rabbin. Mais j'avais, alors là, du coup, à travers le prisme de Viktor Frankl, l'idée que je voulais pas arriver à la fin de ma vie en n'ayant pas essayé. Et donc, voilà, c'est ça qui m'amène ici aujourd'hui.
Vous expliquez, Emmanuel Sebot, vous êtes pasteur, que vous n'avez pas voulu déclarer votre volonté de devenir pasteur et de prendre des responsabilités dans l'Église protestante, mais vous attendiez qu'on vous sollicite, en fait, qui est une démarche complètement différente.
Oui, alors ça, c'est notre fonctionnement dans l'Église protestante unie, c'est qu'on attend, en fait, d'être appelé. On ne pense pas et les autres nous imaginent à telle ou telle place.
Homme ou femme ?
Homme ou femme, tout à fait. Et depuis plus de 60 ans, il y a des femmes pasteurs dans mon église.
Donc vous aviez des guides en quelque sorte ?
Absolument, j'ai des femmes qui m'ont précédée, qui ont ouvert le chemin, qui aussi se sont battues pour que le ministère pastoral s'ouvre aux femmes. Mais des hommes et des femmes se sont battus pour que ce ministère s'ouvre aux femmes.
Ça veut dire que quand vous dirigez une communauté pour la première fois, il y a moins de surprises, c'est plus facile, les choses sont déjà acceptées ?
Ah oui, c'est pleinement accepté dans mon église, oui.
Est-ce que la façon dont une religion, est-ce que l'endroit où elle place les femmes dit quelque chose de l'endroit où elle place l'autre, autrui ? Florian Chinsky.
Oui, et la place qu'une société accorde aux femmes dépend aussi et en interaction avec la société globale dans laquelle elle vit. Donc ça, c'est une chose qui est très importante et très vraie pour la tradition juive. C'est-à-dire qu'on voit que autour de l'époque de la présence gréco-romaine, la place des femmes dans le judaïsme a régressé de façon significative parce qu'en tant que minorité, le judaïsme aurait eu du mal à soutenir, comme le Talmud le fait, que tout le monde peut monter à la Torah, y compris une femme, alors qu'une femme n'était pas citoyenne et n'avait pas d'autorité pour elle-même. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a des petites choses, et c'est là que ça nous a beaucoup intéressé aussi l'approche biblique, l'approche critique des textes. On voit qu'à ce moment-là, il y a un rajout qui dit « Mais une femme ne montera pas la Torah à cause de l'honneur de la communauté. » L'honneur, selon les critères de la société globale de cette époque, pas de la réalité intérieure du judaïsme.
Donc les religions traitent les femmes différemment selon les époques, et selon le contexte et les normes en vigueur ? Kéina Baloul ?
Ah oui, pour moi c'est évident. En fait, il faut pas oublier le rôle de l'anthropologie sociale dans l'évolution des religions. En fait, on a tendance souvent à dire que les religions font les sociétés, mais en réalité, les sociétés font aussi les religions. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui s'alimentent les uns les autres, et il y a forcément une influence de la part, enfin, l'évolution de la société a forcément une influence sur la lecture, l'interprétation et le vécu religieux.
Alors Florian Chinsky.
Et c'est pour ça que c'est très très important que chacun en prenne nos responsabilités dans les cercles où on est. C'est-à-dire que quand on est dans un cercle religieux, il faut faire évoluer les choses dans ce cercle-là. Mais en ne pointant du doigt personne d'autre, enfin, je veux dire, bien sûr, faut critiquer les abus, etc. Mais surtout en faisant évoluer les choses là où on est, parce que ce serait trop facile pour la société globale de dire que les religions sont à l'arrière. Il y a une structuration réciproque et il faut qu'on avance tous ensemble et toutes.
vous voulez faire évoluer les choses. Ce qu'il y a de formidable dans ce livre, des femmes et des dieux, c'est que vous vous attaquez à des interprétations des textes qui touchent au corps, au plaisir, aux interdits, on va en parler, tout ça, au voile pour vous, Kaïna Bahloul, et puis à l'avortement. Emmanuel Sebolt, dans le livre, vous dites, vous êtes toutes d'accord pour dire que les femmes qui se retrouvent enceintes doivent pouvoir choisir le plus librement possible la suite de cette parentalité en devenir, je vous cite. Est-ce que ça vous semble important de le dire haut et fort dans le contexte actuel?
Ah oui, c'est très important parce qu'on voit que la possibilité d'avorter est mise en danger et voire aussi empêchée dans bien des lieux parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que si une femme cherche où est-ce qu'elle peut être accompagnée, finalement, il n'y a pas de rendez-vous avant X semaines, etc. Après, on est hors délai, voilà.
Et aussi parce que certains s'appuient sur des textes religieux ou sur leur interprétation.
Oui, bien sûr. Je pense que en France, on court pas encore le risque que ce discours-là empêche les femmes d'accéder à la possibilité d'avorter si elles le souhaitent, bien sûr. Mais on voit dans beaucoup de pays que c'est mis en danger.
Beaucoup d'idées reçues sont battues en brèche par votre livre, notamment la question du corps des femmes, la sexualité, le plaisir. On le trouve, ces notions-là abordées dans les textes sacrés. Florian Chinsky, vous qui êtes rabbin, vous dites dans le Talmud, on trouve une réflexion sur la satisfaction sexuelle de la femme.
Absolument, et on trouve des élèves qui se cachent sous le lit de leur rabbin pour voir comment on fait, pourquoi. Simplement parce que c'est la relation en fait. Comment faire, comment... Le consentement, c'est une chose extrêmement sérieuse et pas si simple et qui s'exprime à chaque instant. On revient à la question de l'avortement à partir du moment où dans une société on considère que certains n'ont pas leur consentement à donner sur leur propre corps, il n'y a pas de relation qui soit possible et si on bloque la relation avec son partenaire sexuel, on peut pas faire preuve d'intelligence, d'ouverture, de respect d'une façon générale, tout ça va ensemble. Donc ce sujet ne doit pas, c'est très important qu'il ne soit pas tabou et qu'au contraire on s'en empare puisque c'est nos vies et c'est nos corps.
Il y a aussi la question de la liberté, de ce qu'on peut faire avec nos corps, hommes et femmes, avant le mariage. Kaïna Bahloul, vous dites, comment peut-on faire semblant de croire que les relations intimes n'existent pas avant le mariage? Vous avez il y a un malaise pour vous avec ça. Vous dites, il y a de l'hypocrisie dans ce que dit la religion, votre religion.
Non, c'est pas dans ce que dit ma religion, mais en tout cas dans l'expérience religieuse, dans le vécu religieux aujourd'hui, c'est clairement une question qu'il faut poser et à laquelle il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lorsqu'on est un jeune, on n'est pas encore marié. Aujourd'hui, en plus, nos sociétés font que on fait souvent des études, jusqu'à des âges très tardifs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? On s'interdit toute relation? Est-ce que comment on fait? Enfin, ce sont clairement des questions qui se posent. Est-ce que ce qu'on constate, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande hypocrisie par rapport à ces questions-là, par rapport à la question de la sexualité?
Mais alors, je vais corriger ma question. Vous avez raison. C'est ce qu'on fait dire. C'est ce que certains peuvent faire dire à des textes sacrés. C'est ça qui. C'est pour cela que vous dites. Vous vous prenez la plume pour dire. Pour se poser la question?
Oui, non seulement ce qu'on fait dire au texte sacré, mais c'est aussi le fait de faire de la religion un domaine complètement sclérosé qui dans la réflexion, dans l'évolution de la pensée, c'est comme si elle s'était arrêtée au Moyen Âge et qu'il fallait plus permettre à cette pensée d'évoluer et de s'adapter à notre époque.
Vous écrivez ces histoires de jeunes musulmans qui vivent leur puberté avec des petites copines européennes et qui, au moment du mariage, partent chercher une vierge dans leur pays d'origine. Ça n'est pas une vision de l'esprit. Ces choses-là existent et provoquent, oui. Et provoquent chez moi un profond malaise.
Oui, et là encore, on revient à un grand problème qui est celui de la domination patriarcale. Toujours l'homme, le masculin, qui prend le corps de la femme pour un outil dont il doit jouir, dont il peut disposer comme il le souhaite. Donc lorsqu'il est jeune, il peut disposer du corps d'une femme, d'une non-musulmane. Et puis après, lorsqu'il a envie de se marier, il va chercher une femme, une vierge au pays. C'est absolument d'une hypocrisie insupportable.
Florian Chinsky, vous qui êtes rabbin, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, mais en fait, c'est la question de notre rapport au monde. Est-ce qu'on est capable d'avoir un plaisir responsable, un plaisir
en coopération, un plaisir qui construit. Pour ça, faut être capable d'en parler. Donc, si on met du tabou sur le plaisir, on arrive à se retrouver avec soit de la pornographie, et j'en sais rien, faudrait étudier, mais il y a des aspects très très problématiques, soit sur la surconsommation, soit sur plein d'autres choses qui sont pas acceptables. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir un rapport direct, réel, respectueux avec l'autre, au plaisir, dans la sexualité, dans tous les autres domaines de la vie, par exemple dans le partage du pouvoir, peut-être aussi. Enfin, je sais pas ce que c'est le pouvoir non plus. Ce serait une vaste question, mais j'avais envie de glisser un peu vers là-bas.
Des femmes et des dieux, c'est aux éditions des Arènes avec Florian Chinsky, vous qui êtes rabbin, Kaïna Baloul, vous êtes imam Emmanuel Sebolt, pasteur, vous êtes nos invités ce matin sur France Inter. Les questions des auditeurs pour vous, question de Mireille. Bonjour Mireille.
Oui, bonjour monsieur.
Allez-y, on vous écoute.
Bonjour. Oui, ben, je voudrais d'abord féliciter ces dames pour leur engagement, leur nomination aussi. Et puis je me pose une question, là, depuis un certain temps. On n'entend absolument pas parler dans ces les religions autres que catholiques, protestantes, juives et musulmanes, d'abus sexuels. Est-ce que c'est mis sous le tapis ou est-ce que ça existe également, malheureusement? Bon, je suis désolée, c'est le petit bout de la lorgnette sur la religion, mais enfin, c'est quand même d'actualité.
C'est un sujet d'actualité. Merci pour votre question, Mireille, dans la foulée du rapport Sauvé, hein, qui a dénoncé les abus sexuels dans l'Église et qui a été rendu public au début du mois. Emmanuel Sebolt, peut-être sur ce thème?
Oui, alors, quel que soit le lieu où une personne va se retrouver en situation d'autorité ou de pouvoir, il y a risque d'abus. Il y a risque d'abus sexuels. Donc le rapport de la CIAZ est, je dirais, d'abord un séisme pour l'Église catholique, mais aussi, une alarme pour toutes les religions et pour toutes les confessions dans la manière dont les personnes qui sont en position d'autorité se comportent vis-à-vis des membres de leur communauté. Voilà. Donc, chacun et chacune doit faire son introspection. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'Église protestante unie, on prend ce rapport très au sérieux et évidemment, on s'interroge sur notre manière de vivre en Église et comment on entend ceux qui, ont été victimes.
Florian Chinsky, vous qui êtes rabbin, je vous vois approuver.
Non, mais exactement, à partir du moment où il y a une relation d'autorité ou une relation de dépendance, il y a un risque. Donc, faut regarder de très près toutes les relations où un membre du couple a le pouvoir politique ou, économique et tient les cordons de la bourse, c'est pas l'autre. Ou alors, les enfants par rapport aux adultes, partout où il y a de la dépendance, il y a ce risque-là. Donc, limiter au maximum la dépendance et favoriser l'autonomie.
Alors, Jean-Marc Sauvé soulignait la sacralisation excessive des prêtres qui favorise ces abus de position dominante, le silence de la hiérarchie. Question difficile. Est-ce qu'il faudrait que les prêtres soient catholiques, soient plus, soient plus des gens comme les autres? Est-ce que avoir des femmes dans le clergé, ça aide à maintenir un autre équilibre, Kaïna Baloul?
Je pense qu'il y a, là je pense à deux points notamment, c'est il y a d'abord la question de l'entre-soi. Effectivement, ces prêtres catholiques qui se retrouvent entre hommes et dans une position d'autorité de surcroît, eh bien ça peut parfois les amener à être complètement détachés de la réalité. Et puis oui, cette question de la sacralité, de la position, de la fonction du prêtre, oui, elle est certainement à questionner. Et puis après, ce qu'il faut être questionné et accompagné dans la vie de ces hommes-là, qui restent des hommes, hein, donc avec leur nature humaine imparfaite, avec avec tous ses besoins, je dirais, y compris les besoins sexuels. Donc, le célibat des prêtres, il faut peut-être l'accompagner. Je ne dis pas qu'il faut
le remettre en cause.
Peut-être, c'est pas à moi de questionner ça, mais en tout cas, peut-être l'accompagner.
Kaïna Baloul, Florian Chinsky, Emmanuel Sebolt, question pour vous d'André. Bonjour André.
Bonjour. Une toute petite précision avant la question en 10 secondes. Je suis protestant, enfin issu d'une famille protestante calviniste, mais moi, à titre personnel, je suis plus athée que Comte, Clémenceau et Anatole France réunis. C'était juste une précision. Bon. Donc simplement, je me posais une question simple. Pendant des millénaires, je ne parle pas de la religion protestante puisqu'elle n'existe que depuis 500 ans, mais depuis des millénaires, les religions, qu'on le veuille ou non, ont eu pour effet d'abêtir la population et de placer en plus la femme au rang pratiquement de rien d'autre que d'un appareil reproducteur de l'espèce. Je suis surpris d'une part de voir des femmes intégrer ces postes de ministre du culte, c'est le terme je crois qu'on emploie, le terme officiel.
Tout à fait.
Et je suis surtout surpris par quelque chose que vous n'avez pas sur le plateau, par la force des choses, de femmes de la religion catholique, puisque il n'y a pas de cardinaleux, il n'y a pas d'archevêque ou d'évêque, même pas une simple curée. Donc le problème, est-ce que en plus la religion catholique n'est pas encore plus misogyne ou abétissante que les autres?
André, c'est la question d'André à qui on la transmet, qui veut répondre? Emmanuel Sebold, vous êtes pasteur.
Oui, je réponds à André. Comment dire? J'ai tellement reçu, pour ma part, dans ma tradition, dans mon église, dans ma tradition de foi, j'ai reçu tellement de force de vie, de force de liberté, d'invitation à la responsabilité, d'ouverture au dialogue, de réflexion, de débat, que je ne peux pas être d'accord avec vous, cher André, tout simplement.
Mais néanmoins, je reprends les chiffres. Les Français croient de moins en moins en Dieu et un peu plus de la moitié des Français ne croient pas du tout en Dieu aujourd'hui. Florian Chinski, lève les bras au ciel.
Mais oui,
non, mais
est-ce
que cette volonté de moderniser, de dire mais il faut regarder les textes, ils ont été frigorifiés par les hommes, est-ce que c'est ça quand même que vous voulez faire aussi, dire on peut avoir une lecture plus moderne qui pourrait peut-être séduire plus?
Alors oui, et puis surtout dépasser, alors en ce qui concerne le judaïsme, un certain type de préjugés qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai appris, ni dans ma famille, ni dans mes études rabbiniques, autour de la question de la croyance en fait. Donc dans la croyance, dans le judaïsme, on ne parle pas de croyance, on parle de fidélité, de rentrer dans un certain cadre. Quand on parle de Dieu, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas nommer. C'est quand même presque le contraire de nommer, enfin, on ne peut pas nommer Dieu dans le judaïsme. Donc, au total, c'est comme une façon de désamorcer le risque d'une croyance stupide. Alors, je dis pas que ça marche de façon universelle, loin de là. C'est un travail permanent sur notre humanité. Mais de ce point de vue-là, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on a une petite tendance quand même à la superstition? Et qu'est-ce qui fait que, on arrive à tenir le coup face à des grandes angoisses comme, celle de la mort, de la guerre, etc.? Qu'est-ce qui peut rentrer dans cet interstice, et s'il y a rien, eh ben ce sera de la stupidité. Mais s'il y a quelque chose d'intelligent, et c'est ce qu'on essaye de construire à travers les religions ou la culture, ou plein d'autres choses, alors il y a une chance que ça nous grandisse.
Un mot du contexte politique du moment, la montée de l'extrême droite, Éric Zemmour, presque candidat qui s'en prend dans son livre à la famille Sandler, victime de Mohamed Merah à Toulouse, au motif qu'elle n'a pas enterré ses enfants assassinés en France. Éric Zemmour qui les qualifie d'étrangers avant tout, qui estime d'autre part que l'islam est une religion qui concurrence le code civil et qui n'est pas compatible avec la France, et qui a une audience dans notre pays, une démarche qui trouve un écho auprès d'une partie de l'opinion publique. Comment est-ce que vous l'expliquez, Kaïna Bahloul?
Écoutez, moi, j'ai aucune envie d'essayer d'expliquer les propos d'Éric Zemmour.
Non, mais en tout cas, son impact dans l'opinion, sur une partie de l'opinion publique.
Après, moi, cet impact, je pense qu'il joue, c'est parce qu'il joue, ce monsieur joue beaucoup sur les peurs. Et on sait très, très bien, depuis la nuit des temps, que lorsqu'on joue sur les peurs, eh bien, on a des chances d'être entendu et de toucher l'être humain, ou en tout cas, les citoyens dans ce qu'il y a de plus profond et, enfin, et même de toucher à certaines peurs inconscientes. Et moi, ce que je déplore simplement, c'est que aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se permettent de dire tout, d'affirmer tout un tas de choses à propos de l'islam, alors qu'ils ne le connaissent pas. Moi, personnellement, j'ai repris des études. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je fais des études en islamologie, que je fais de la recherche en islamologie. Et je me pose encore des questions. Je me dis que j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, à propos des religions, moi, je crois qu'il faut vraiment s'abstenir d'avoir des jugements définitifs.
Merci. Merci à toutes les trois. Merci à toutes les trois. On manque de temps, mais il faut lire ce livre pour aller plus loin. Des femmes et des dieux aux éditions Les Arènes. Florian Chinsky, Kaina Baloul, Emmanuel Sebolt. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.